Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait au départ un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
rue. Les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'ordre de mettre.
On ne connaît pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire? Que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UGP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutues femmes
oranges. Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est l'heure de le mettre.
L'heure de le mettre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis, un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis, à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tomber en panne de poste. Tu dis tant que je ne connais pas. Sans quoi, tu dis.
Aujourd'hui, mercredi 6 janvier, c'est la Saint-Vœu présidentiel 2021 et le saint patron de Farid qui est infirmier qui attend toujours sa prime Covid. David qui a applaudi Farid à sa fenêtre. Solal qui a téléchargé l'application Tous Anti-Covid. Pasquale éboueur deuxième ligne mais pas mieux payé pour autant. Tout le monde.
Voilà, c'était ça à peu près.
Oh, que c'était long, ces vœux. On n'en pouvait plus. Jupiter, en cette Saint-Sylvestre, nous a léché le cul si fort et si longuement que nos anus en sont encore humides. Mais il faut se méfier des lèches-culs. C'est suspect. Et puis, Saint-Jupiter adore les préliminaires.
Françaises, Français, mes chers compatriotes,
oui, c'est nous.
De l'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger.
Bah c'est bien, il oublie personne, on peut dire que l'introduction, c'est le seul moment où il va pas dire de conneries.
Nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres.
Sans blague.
Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement, ils sont cette année interdits par l'épidémie.
Ah non, non, l'épidémie, elle interdit rien du tout. C'est toi qui interdis aux gens de se rassembler, sauf, au Puy du Fou. Là, on a le droit.
Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment.
Nous, c'est toi plus nous. Non, parce que tes choix, toi, c'est de bousiller notre industrie, exiger de la rentabilité aux hôpitaux, privatiser les services publics en rognant par petits bouts avec de la sous-traitance.
Et je veux vous remercier de votre civisme, de cet esprit de responsabilité collective par lequel nous avons sauvé tant de vies.
Oui, donc en fait, c'est nous sans toi.
Et qui nous permet aujourd'hui de tenir mieux que beaucoup face à l'épidémie.
Mieux que beaucoup, pire qu'encore plus. C'est sûr que si on se compare à Trump ou à Bolsonaro, on est tout bien, tout propre, tout comme il faut. Mais vous êtes allé faire un tour à Cuba, monsieur le président ?
En votre nom, j'ai ce soir une pensée pour les 64 000 victimes de ce virus.
Ça, c'est gentil d'y penser, mais ça aurait été mieux de les soigner. 147 victimes à Cuba, pour 11 millions d'habitants. À proportion de population, ils ont géré la crise 100 fois mieux que nous. Et ce n'est pas une expression, ce sont juste des mathématiques.
Cette année 2020 a été difficile.
Tu l'as dit, Bouffi.
Elle nous a rappelé nos vulnérabilités.
Ah, parce que tu t'en rappelais pas, en fait. Genre, il y a plus d'un an de grève d'hôpital avant la crise, mais poisson rouge, quoi.
Elle a été encore plus injuste pour les plus fragiles. Mais ensemble, nous en sortons encore plus unis.
Unis ? Unis ? La moitié de la France déteste l'autre. Au réveillon de Noël, des familles se sont déchirées en parlant de vaccins, de Raoult, de chloroquine, de mes couilles, de complot. Papy facho se fâche avec sa petite fille qui lui ramène un Mohamed, donc selon le vieux, un potentiel terroriste. Tati bourgeoise sermonne les pauvres parce qu'ils sont pas assez écolos à son goût, ils se sont pas mis au zéro déchet, il faudrait les mettre à l'amende. Les ultra-riches pratiquent un communautarisme et même un séparatisme, tu parles d'une union. Même pour les impôts, ils fonctionnent pas dans le même monde que nous. Les paroles racistes, islamophobes, antisémites n'ont jamais cessé. Tout le monde derrière son masque regarde l'autre comme un danger de choper un virus à la con. Les vieux reprochent aux jeunes de faire la fête, les jeunes reprochent aux vieux de leur laisser une planète dégueulasse. Personne n'a plus le droit de voir personne, mais t'as raison, on est unis pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que le couvre-feu nous sépare. C'est plus une canonisation là, c'est un mariage. Forcé. Bon, 14 minutes qui en paraissent 14 000, c'est long, alors on va résumer la messe. Saint vœu présidentiel 2021 va continuer à lécher vos petits derrières dans le sens du poil de cul. Il va nous dire que notre nation est solide, que notre destin est d'abord en Europe, mais en même temps, notre souveraineté est nationale, qu'il est fier de nous, qu'on est sage, qu'on aura une image, mais pas d'augmentation de salaire, puisqu'au contraire, il ne faut pas faire subir la crise aux générations futures, quoi qu'il en coûte. Comprenez, quoi qu'il nous en coûte. Bref. Saint vœu présidentiel 2021 est canonisé, nos trous de balles lubrifiés, l'austérité maximale annoncée, l'état policier institué. Bonne année. Aujourd'hui, mercredi 6 janvier 2021, le soleil s'est levé, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, il s'est couché, bonne année, pof con, bonne année, pof con, et patati, et patata, et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, le campuslille.com, et même sur le DAB+.
Arrêtez de parler, arrêtez de parler,
arrêtez de parler,
arrêtez de parler. Arrêtez de parler.
Vous disez que arrêtez de la parler. Merde a une vitesse
arrêtez
incroyable. Vous disez toujours
arrêtez
la même
parler.
Chose avec une gueule de
arrêtez
comptable.
De
vous disez que arrêtez de la
parler.
Merde dans des positions
arrêtez
viriles. Vous disez toujours
arrêtez
la même
parler.
Chose comme si on était
arrêtez
débile. Et vous pouvez,
de parler.
Vous saurez,
de parler.
Vous savez,
de parler.
Vous devez
arrêtez de parler.
Il est à moi. Bébé panda,
arrêtez de parler, arrêtez de parler.
Il est à moi,
arrêtez de parler, arrêtez de parler.
Et tu l'as pris pour toi, le bébé panda. Tu dis que tu ne voyais pas sa maman, son papa. Et il s'est pris pour toi, le bébé panda. Tu dis ça pour le protéger, c'est une espèce menacée.
Mm-hmm.
Arrêtez de parler.
C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis à 7h-ci ou à peu près. En fin d'émission, vous retrouverez une interview de Stéphane Sirot, historien, à propos des 100 ans du congrès de Tours, donc des 100 ans de la création du PCF. Mais auparavant, un reportage effectué par notre camarade Seb de l'émission Passe au Rouge, que vous retrouvez le lundi à 19h sur cette même antenne. Reportage qu'il a effectué à Auchan, Auchan Noyelles-Godault. C'est l'heure de le mettre.
Radio Campus Lille 106,6, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
Vous êtes salarié chez Auchan ?
Oui, c'est ça.
Ici, là, celui-là, là, Noyelles-Godault ?
Noyelles-Godault, c'est bien ça, ouais.
Vous avez...
Depuis 20 ans.
Depuis 20 ans salarié ici ?
C'est ça.
Vous avez des responsabilités syndicales, peut-être ?
Oui, je suis délégué syndical.
D'accord. CGT. Vous pouvez nous parler un peu des conditions de travail en général ici ?
Ils se sont fortement dégradés. Là, aujourd'hui, c'est suite à l'annonce justement qui a fait... c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans le sens où, déjà, il y a 2 ans, on a eu une fermeture ici au centre auto. Auparavant, 21 sites ont été fermés. Il y avait déjà eu des suppressions d'emplois. Et suite à la crise sanitaire qu'on subit, qui n'est pas finie encore... Donc on s'est soudés pour pouvoir assurer le service. Et aujourd'hui, le remerciement, c'est qu'il y a encore des suppressions de postes.
Oui, alors c'est pour ça que vous êtes mobilisés aujourd'hui. C'est vous ça. Êtes une centaine là, hein,
c'est
devant
pour,
le magasin.
Justement pour stopper l'hémorragie et faire comprendre à nos dirigeants, parce que nous aussi, on a des camarades de Aninéa qui viennent de subir des fermetures. Et on apprend dans le même temps qu'il y a un rachat d'un membre de la famille Mullier qui rachète les magasins restants. Et donc c'est inadmissible, c'est pas possible de rester impassible face à ce genre de process. Sachant aussi qu'on voit aussi qu'ils sont donc champions de l'optimisation fiscale. Avec des achats dans des châteaux, une île récemment, et que dans le même temps, il y a des licenciements. Et nous sommes les bras qui faisons marcher l'économie, et le remerciement, c'est qu'on va mettre des caisses automatiques, donc il y aura un impact psychologique. On dit que les hôtesses ne sont pas impactées, il n'y aura pas de licenciement au niveau des hôtesses, mais forcément, la charge de travail, elle sera, à un moment ou à un autre, elle sera répartie. Et donc, on va leur demander de faire autre chose. Donc, le métier va changer, et psychologiquement, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est quoi l'ambiance, là, chez les salariés à Auchan, en ce moment, là ?
En ce moment, et on le voit, et je le vois même, c'est l'ambiance, elle est vraiment délétère, c'est un climat délétère. Et même sortir, il y a des gens, donc il y a énormément de gens qui se plaignent, mais qu'ils n'ont pas le courage, ils ont même peur de venir et de manifester, pour vous dire. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire appel à maintenant vous le voyez, aux camarades de l'UD, de l'UL, et puis un soutien du secrétaire fédéral, parce que je le savais... qu'on n'allait pas avoir un gros impact au sein du magasin, parce qu'il y a des gens qui ont peur pour l'emploi. Parce que...
Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur des contrats partiels.
Il y a les étudiants déjà, c'est vrai, les étudiants ont
ils ont
peur.
Ils ont peur que leur contrat ne soit pas renouvelé,
c'est ça. Ensuite, d'autres personnes qui ont peur d'être... Parce qu'indirectement, on leur dit si tu fais grève, ils risquent d'avoir des conséquences derrière.
Là, vous avez eu des témoignages de salariés qui vous ont dit ça, qu'on leur avait parlé. parlé.
Oui, franchement.
Que,
oui.
Au niveau des cadres et de la direction, il y avait eu des petits messages qui ont été passés.
C'est ça. On fait passer un message. Et même les sociétés. Je suis même pour vous dire que c'est très grave. Même les sociétés prestataires me contactent pour me dire. Là, par exemple, la sécurité, on a eu entre 3 et 5 salariés qui m'ont contacté. Et pareil dans le nettoyage. Donc il y a c'est qu'on voit bien qu'il y a un gros malaise.
C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils craignent du côté des prestataires?
Les prestataires, de toute manière, en sécurité, ils sont renvoyés. Il y a eu des licenciements, donc soit ils font pas l'affaire, et on me dit qu'ils subissent des pressions de la part de coordinateurs ou de responsables. Et donc il y a des personnes, comme ils ont été enlevés du site, soit ils ne retrouvent pas de travail, soit ils sont licenciés.
Alors vous nous dites qu'au-delà des 1500 postes supprimés en prévision, il y a aussi un certain nombre de postes qui vont être supprimés de façon plus invisible au niveau des prestataires.
Dans mon cas, je travaille dans un secteur, ça s'appelle le GP, donc l'équipement de la maison. Jour pour jour, on était 23. Et là, on se retrouve à peu près une quinzaine. Donc déjà là, les remplacements, les départs ne sont pas remplacés.
Il faut qu'on se mette d'accord pour savoir ce qu'on va demander exactement.
Il est 10h ce matin du 17 novembre. Donc on était devant le Auchan de Noyelles-Godault et là on rentre à l'intérieur avec une centaine de militants.
Salut Aurélien.
Ça va?
La forme?
Ça va. Salut.
Donc on est à l'intérieur de la galerie commerciale du Auchan de Noyelles-Godault. Donc avec cette centaine de militants, essentiellement de la CGT, il y a aussi des militants de la France Insoumise, le député Caténins. Et on est maintenant à l'entrée du Auchan dans la galerie commerciale et une dizaine de vigiles se sont placés en rempart pour empêcher les militants de rentrer à l'intérieur du magasin Auchan. Il y a une certaine confusion qui règne ici avec la musique qui crée un peu d'excitation. Ah mais il y a déjà certains militants qui ont réussi à franchir l'entrée du magasin. Il faut dire aussi que le député de la France Insoumise, lui aussi, hein, force le barrage et passe. Ça passe finalement. Hein. Il y a déjà un certain nombre de militants qui ont réussi à rentrer dans le magasin. Alors on va les suivre. Finalement, les vigiles ont lâché, le barrage a été rompu. Alors ça y est, là, le Auchan de Noyelles-Godault est maintenant envahi par les militants syndicaux et politiques. Alors il faut voir la tête des clients de Auchan là, hein, qui semblent totalement stupéfaits et interdits devant cette intrusion. Alors, je suis avec Habib de la CGT de Tourcoing. Habib, tu es le secrétaire de l'UL de Tourcoing, mais tu es aussi un salarié d'Auchan.
Oui, ben, je suis délégué syndical chez Auchan.
À Tourcoing, donc.
Oui, à Tourcoing, c'est pas difficile. C'est très difficile de se faire dépouiller notre argent public pour ensuite se faire jeter par vagues successives de licenciements comme des moins que rien. Et donc, bah, on est là pour dire non, stop, rendez-nous l'argent. Un message à Gérard Mulier, rendez-nous l'argent du contribuable.
Habib, est-ce que tu pourrais, pour les auditeurs de Radio Campus, nous décrire ce qui se passe et ce qu'on est en train de vivre dans ce Auchan-là?
Bah, ce qu'on est en train de vivre, on est à Noël-Godot, donc le plus grand Auchan de la région. Et on voit environ une bonne centaine de syndicalistes en train de défiler dans le magasin, en train de réclamer l'argent du CICE.
Alors on est encadré par quelques vigiles, mais le barrage finalement n'a pas tenu très longtemps.
Il faut dire que les vigiles sont de plus en plus jeunes et on a l'impression qu'il y a une déclassification au niveau du niveau. On prend beaucoup de stagiaires étudiants et on a l'impression que ils ont un peu le physique d'adolescent, quoi.
Les réflexes du syndicaliste qui repère tout de suite le manque de formation du personnel, même quand il est du côté de l'adversaire.
Mais en même temps, que voulez-vous, c'est la logique du profit à tout va pour les actionnaires, puisque étant donné que l'offre est minorée par la paye, et il n'y a plus de primes, donc forcément on se retrouve avec les seuls qui veulent croquer dans cette maigre pomme, je sais même plus si on peut l'appeler une pomme, je dirais plutôt les pépins. Quand on offre des pépins, ben, on attire des poussins. Le grand coq veut manger des bonnes graines.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelques syndiqués qui vont en profiter pour faire leurs courses, là? Il y a des promos intéressantes aujourd'hui, bah, j'ai remarqué.
Figurez-vous qu'il fut un temps, la CGT, autrefois, rentrait dans les centres commerciaux, prenait de la nourriture, sortait des caddies.
Et oui, il y a quelques années
et
encore.
Les donnait aux associations populaires pour redistribuer aux gens les plus nécessiteux.
Voire s'offrait quelques gueuletons avec les produits un peu luxueux, voilà, qu'on peut trouver.
Surtout pour les repas de Noël.
Rien n'est trop beau pour la classe ouvrière.
Bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais cet avenir, on va le créer ensemble. On va le porter et on va le défendre. Pas contre eux, mais pour nous.
Tu veux bien me parler un petit peu là des conditions de travail chez
Auchan? Vas-y, si je peux te répondre, vas-y.
Bah dis-moi, toi tu es un salarié.
Alors moi je suis salarié d'Auchan, je suis délégué du personnel, je suis membre du C2SCT.
Tu bosses ici à Noyon?
Ouais, j'étais ancien conseiller prud'homal. Bah oui, bah aujourd'hui de toute façon c'est un ras-le-bol. Bien sûr, la suppression des 1475 postes, mais aujourd'hui, de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui. Et on pense que l'année 2021, ça sera la pire. Aujourd'hui, de toute façon, les employés ne sont plus à l'abri de perdre leur emploi. Et voilà, et tout en sachant qu'on rentre dans la polyvalence de plus en plus, avec malheureusement des salaires qui sont très bas. Et les conditions de travail se dégradent de plus en plus. Et ça, c'est...
Et avant la pandémie, là, elles en étaient où, ces conditions de travail?
Alors, ça commençait à se décanter. C'est un peu, alors je ne dis pas, c'est un peu comme la direction. Ici, on a déjà... Moi, je suis là depuis 2001, j'ai eu 4-5 directeurs. Hein, bon, on n'était pas toujours d'accord, mais on avait du dialogue social, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, on veut regagner le dialogue social. Bien sûr que c'est peut-être compliqué le commerce, mais aujourd'hui, on veut qu'il y a la part des choses qui soient faites.
C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à discuter avec le patron?
De toute façon, non. Le patron, il a des objectifs. C'est quoi? C'est gagner un gros petit camembert et rien donner, et laisser des miettes à ses salariés. Mais aujourd'hui, il laisse des miettes, et en plus de ça, il dégrade ses conditions de travail. C'est inacceptable. inacceptable. Alors là, on a demandé à les rencontrer, on verra bien.
Et pourtant, Mullier, il a quand même une aura de patron social. Bah, vous gagnez 20 euros de plus que le SMIC, ouais, et vous avez un 13e mois. Ah, ouais, il y a eu la prime Covid.
Ouais, mais les gros actionnaires, ils n'ont presque rien eu en 2019. Et aujourd'hui, ouais. Eh ben, ils veulent tout récupérer, mais tout récupérer sur le compte du petit salarié. Hein, les primes, ils sont très basses et ils restent aussi. Et c'est surtout nos conditions de travail. On ne demande pas grand-chose, nous. Des bonnes conditions de travail et un peu plus de salaire.
Et c'est quoi, par exemple, des bonnes conditions de travail?
Des bonnes conditions de travail, c'est avant, juste un exemple, avant, il y avait une personne par rayon. Aujourd'hui, c'est une personne pour deux ou trois rayons. Il faut de plus en plus de mutualisation. Et aujourd'hui, bon, malheureusement, ce qui nous a desservi, c'est un peu sur le Covid. Aujourd'hui, bon, on est quand même 500 sur Noyers-Godault. Ben, ils ont repris à travailler avec 250 salariés. Ben, c'est clair, hein. On ne va pas aller plus loin. Hein. Aujourd'hui, on fait quoi? On continue la mutualisation, une personne pour trois rayons. Voilà, tout simplement.
Alors, à quoi ça peut servir ce genre d'action-là? On vient de rentrer à l'intérieur
L'action, c'est exactement pour faire comprendre qu'aujourd'hui, on est là. Hein, on est là pour les droits des salariés et qu'aujourd'hui, on ira jusqu'au bout. On ne peut pas accepter que tous les magasins, il y a des licenciements. Et ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Voilà, c'est comme ça. Alors on est là pour les salariés.
J'étais plein d'objets sans fil. J'étais un écran plat. La vie serait plus facile. Je t'achèterai un stylo, je t'achèterai un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat, j'achèterais des boîtes en plastique. J'achèterais une tente Quechua. Aujourd'hui on ne sait jamais. Je t'offrirai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais. Peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mémé. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché, le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Oh, si j'avais le pouvoir d'achat, je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts, c'est bien fait. J'achèterai un camembert président. Celui qui sent les pieds, oui, mais le président, il sent des pieds. Je m'abonnerai à la piscine, puis j'irai chez le podologue me faire enlever une verrue. Je ferai des heures de Vélib, je m'achèterai un barbecue. Avec un allume-barbecue, je m'achèterai un rat de velay pour protéger mon barbecue.
Je placerai 1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros. 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas, un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus. Jouer un peu plus, un peu plus.
Allez, salut, à dimanche prochain. Oh la 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 la.
Écoutez, camarades, écoutez la radio attentivement, le lundi à 19h. On passe au rouge sur Radio Campus 106,6 afin d'éviter tout désagrément pour ta santé et celle de tes enfants.
Est-ce que vous faites aujourd'hui ici devant le Auchan de Noyelles-Godault ?
Alors on est ici pour dénoncer la casse sociale qui s'opère chez Auchan, mais aussi mettre en avant les problématiques de crise sanitaire dans la gestion des protections individuelles et collectives qui ont eu des difficultés à se mettre en œuvre au démarrage.
Vous-même, vous travaillez ici ?
Alors non, moi je suis rattaché au site physique de Auchan-Louvral. Mais je suis personnel Auchan et je suis délégué syndical retail pour Auchan France.
Et vous, monsieur ?
Moi, je suis délégué syndical central pour Auchan France également, rattaché sur Hirson.
À la CGT aussi, madame, qui est de la FO.
Alors, moi, je travaille sur le site et je suis délégué syndical FO, effectivement.
Ah, très bien. Je vous invite à répondre, si vous voulez bien, tous les
trois. Oui, de façon collective, oui, pas de souci.
On est toujours dans la pandémie, mais on sait bien que les salariés de la grande distribution étaient en première ligne, hein, si on veut bien utiliser le vocabulaire guerrier de Macron,
ouais.
Dans cette crise.
Oui, alors, c'était les
héros. Il y a eu une prime Covid chez Auchan.
Alors, oui, qui était profondément inégalite.
Ça vous fait rire, madame.
Oui, je peux.
C'est profondément injuste dans le sens où, dans une annonce de notre directeur général, elle était distribuée à l'ensemble du personnel, dans le cadre justement du maintien des services à la population. Et puis très vite, désaveu de l'annonce en disant, mais non, finalement, c'est au prorata du temps de présence au regard des personnes qui étaient en contact physique avec la clientèle. Sauf à dire que la Covid, quand elle touchait une victime, elle ne cherchait pas à savoir si c'était un temps partiel ou un temps complet. Et donc, ils étaient contaminés. Non, mais parce que on peut en rigoler, mais c'est malheureusement ce qui a fait que certains salariés ont été désavoués de leur activité au quotidien, d'être en confrontation directe avec le risque sanitaire et dans le même temps garantir un service aux populations. Donc c'est une vraie fumisterie, cette prime d'annonce. Et puis en même temps, c'est récompenser ces salariés pour pouvoir mieux les licencier demain. Parce que ces héros d'hier sont des futurs chômeurs. Parce que l'entreprise a toujours mis en avant le profit, les richesses, au détriment des conditions de travail et de l'investissement des salariés. Aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, parce qu'on va fêter même les 60 ans d'Auchan, donc les salariés ont remonté 100% de leur force de travail à l'actionnaire, qui s'est gavé, qui perçoit des aides publiques d'État que s'appelle le CICE, 1,5 milliard quand même sur 5 ans, qui a une des priorités absolues, c'est préserver l'emploi. Et aujourd'hui, l'emploi, il n'est pas préservé, il est dénaturé, et on est en train de mettre des familles dans de la précarité.
Alors sur ce plan de suppression de près de 1500 postes, là, il s'inscrit déjà dans une histoire hein, de restructuration de la boîte. Vous pouvez nous rappeler les dernières années ?
Alors les historiques, on a fermé pas plus tard qu'il y a à peine un an 21 sites. 21 sites qui ont mis plus de 900 familles dans le désarroi et dans la précarité intense, avec l'onde de choc qui leur a été obligée d'absorber, parce que l'entreprise est quand même sixième fortune mondiale, avec un capital qui est exponentiel et qui est d'ailleurs pas connu, puisqu'on est toujours surestimé. Hein.
Vous nous dites qu'Auchan, c'est rentable, ça rapporte de l'argent, alors c'est pas coté en bourse, mais au patron, quoi.
Eh bien, juste une petite anecdote quand même. Il n'y a pas si longtemps que ça, les actionnaires Mili viennent de s'acheter l'île de la Jument. Vous regarderez sur Internet, c'est quelque chose de très intéressant. Et ils viennent de s'acheter un château de Dampierre. Donc, preuve par là que de la richesse, il y en a, et les salariés Auchan continuent d'en dégager. Alors l'entreprise a continué son activité pendant le Covid, donc elle a pu tirer son épingle du jeu quand on la compare aux hôtels, restaurants ou aux cinémas qui eux ont été contraints de fermer. Et on a des indicateurs qui sont dans le vert puisqu'on commence à retrouver un petit peu de part de marché et de chiffre d'affaires. Preuve en est que la consommation reprend tout doucement.
Vous pouvez me parler des conditions de travail chez Auchan ?
Alors les salariés au regard de cette crise sanitaire ont déjà eu des conditions de travail exécrables puisque les gens ont été un petit peu dans un volet de guerre civile où on s'est rué sur les produits de première nécessité. Donc des stress, ce qu'on appelle les RPS, hein, c'est les risques psychosociaux. Donc faire face à des clients qui étaient dans la phobie, l'angoisse, la peur de ne pas avoir de denrées alimentaires pour nourrir leur famille. De pouvoir gérer et filtrer le stress de ces personnes-là avec en pointe de chapeau la peur d'être contaminé. Donc les conditions de travail ont été très difficiles pendant plus de 2 mois. Au déconfinement, il y a eu une phase un peu creuse avec une vague qui a repris de plus belle puisque les gens se sont remis à consommer dans les hyper de façon un peu moindre, mais en tout cas, ils étaient quand même présents. Et puis les autres formats, les supermarchés, les drives, eux ont eu des activités qui ont été de l'ordre de 35% d'activité en plus. Donc ce qui démontre bien que les choix de consommation ont en effet migré vers les magasins de proximité, supermarchés, voire drive. Et donc le report des conditions de travail s'est opéré sur les plus petits formats. Mais dans la globalité des choses, l'ensemble des salariés n'ont pas démérité, bien au contraire. Et aujourd'hui, ils continuent d'avoir la tête dans le guidon, puisqu'il faut avoir à l'horizon de nos esprits les fêtes de Noël qui arrivent. Et donc les fêtes de Noël, on sait que cette période-là, c'est le compte d'exploitation le plus regardé par l'ensemble des directions, puisque ça va faire quasi le chiffre de l'année. Et donc vous comprendrez bien qu'ils vont leur demander d'être de plus en plus présents sur site, avec un service aux clients sans faille, pour pouvoir justement se gaver et continuer à dégager de la richesse et de la valeur pour l'entreprise.
D'autant plus que pendant la crise, les salariés étaient envoyés n'importe où. Moi, je pouvais être employée en textile, on pouvait m'envoyer au drive. Donc, on ne tenait pas compte ni de la santé physique des salariés, ni de leurs horaires. C'était ça.
Ou
de leurs compétences. Non, il fallait produire. Et le résultat, c'est qu'en fait, la prime n'a pas été au rendez-vous. Et là, maintenant, on continue. C'est la première année où, ici, à Noyel, pour les congés, on n'a pas de CDD, on n'a rien, on n'a pas été aidé. Donc on a fait la rentrée des classes sans CDD également. On a manqué de bras et ça continue puisqu'ils ne renouvellent pas les contrats et ça sera de pire en pire. Et il parlait de la fin d'année, Arnaud.
C'est comme à l'hôpital alors, mal payé et en plus, on manque d'effectifs.
Et puis en plus, les risques aussi. Oui, exactement.
Avec en plus une notion de polyvalence. C'est-à-dire que la polyvalence, elle se choisit, elle ne se subit pas. Aujourd'hui, elle est subie par le personnel. C'est-à-dire que dans le cadre d'une rationalisation des coûts, l'entreprise est en train de mettre en œuvre une polyvalence et une polycompétence imposées et pas choisies. C'est là où le bât blesse. C'est qu'aujourd'hui, le salarié, il est professionnel dans un métier, dans des tenues de fonction, et on lui demande justement encore dans le cadre de pouvoir capter des coûts et amoindrir les coûts de fonctionnement, de faire le métier de deux ou trois personnes dans des périmètres qui ne sont pas les siens. C'est là où ça ne va pas. Toujours avec un salaire au ras des pâquerettes, puisqu'il faut rappeler que le salaire d'Auchan sont quand même 20 euros au-dessus du SMIC. Hein.
Oui, 20 euros au-dessus du SMIC.
Au NAO, on n'a rien eu. On n'a rien eu. On a eu le minimum syndical.
Je voudrais juste revenir un instant sur cette fameuse prime Covid.
Oui.
J'ai cru comprendre qu'un certain nombre de conditions étaient assorties pour pouvoir toucher cette prime Covid. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Est-ce que ça a effectivement restreint le nombre de salariés qui ont pu la toucher dans les faits?
Mais oui, parce qu'on est 65 000 salariés aujourd'hui. Alors, le nombre qui ont pu percevoir cette prime, je n'ai pas la notion du chiffre aujourd'hui, parce qu'elle ne nous a pas été communiquée. Maintenant, il y avait une période qui était, il fallait être présent aux effectifs et sur site, entre la période du confinement et la sortie du déconfinement, qui était le 9 mai. Donc, pendant ce laps de temps-là, si on était présent sur site, on obtenait la prime si on avait 35 heures, parce qu'elle était conditionnée au contrat de travail. Et après, c'était proratisé au temps de présence et du contrat de travail. Donc, vous pouviez avoir 1 000 euros 35 heures et être à 12 heures d'un étudiant et toucher même pas 200 euros.
Et vous avez des collègues qui ont touché la prime de 1 000 euros?
Alors, on en a eu, mais on en a aussi qui ont été des oubliés, puisque les personnes qui ont été obligées de se protéger en restant chez eux, parce que en ayant des maladies... très sensibles comme l'insuffisance rénale, le diabète ou des personnes qui sortaient d'une grosse maladie comme le cancer, voilà, les personnes vulnérables, merci, mais ces personnes-là n'ont rien touché. Donc elles ont, un, dû garantir leur sécurité et se protéger en restant chez eux et en protégeant les leurs, et dans le même temps, on leur dit, oui, mais t'es pas venu travailler, donc t'auras pas le droit à la prime. Donc là encore, c'est un contresens. Et donc, la considération du personnel, elle n'existe pas. Parce que demain, quand on est PDG, on essaye d'avoir une action commune pour l'ensemble. Et c'est de dire, voilà, on vous récompense tous. Parce qu'à un moment donné, dans votre vie de salarié, vous avez contribué à améliorer les résultats de l'entreprise et faire de ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'elle est présente sur le territoire français, mais n'oublions pas aussi sur l'international. Ce qui explique que la galaxie Mulier est quand même énorme. Énorme.
De toute façon, on est loin du partage... Du partage de l'avoir et du savoir, ce que disait Gérard Mulier au tout départ d'Auchan. Et là, ces valeurs-là, on les a perdues.
On peut aussi parler des oubliés, qui sont les employés des RSRA, qui étaient responsables des achats sur la centrale du 9 d'Ascq, et qui ont complètement été oubliés par Auchan, parce qu'ils ont travaillé chez eux, et donc quand on travaille en télétravail, on n'a pas de prime. Mais on est quand même responsable de l'achat de tous les magasins de France. Donc c'est totalement inacceptable.
Est-ce que il n'y a pas une nécessité pour le patron de restructurer la boutique de façon à ce qu'elle s'accorde avec les nouvelles données d'un marché en pleine évolution?
Alors le monde change, le monde évolue, c'est une certitude. Maintenant, de quel droit il peut choisir à la place du client ce qui va être bien de ce qui va l'être moins? Vous parliez justement de la nouvelle technologie, l'encaissement. Il n'y a pas de meilleur moment que d'avoir le sourire d'une hôtesse de caisse en fin de parcours d'achat qui vous conseille, qui vous demande si tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on est en train de déshumaniser le métier. On va mettre des caisses automatiques où le client va tout faire. Il va choisir ses produits, il va les mettre dans son caddie, il va les scanner, il va payer, il va partir. Donc est-ce que c'est cette notion-là de service qu'on veut offrir aux clients de demain? J'en suis pas persuadé. Moi, je pense que c'est le côté humain qui favorise tout. C'est la relation sociale qui fait que l'entreprise, elle était reconnue, elle avait une cote amour en son temps, qu'elle est en train d'encorner aujourd'hui. En courant et en galopant après des frais d'économie, de fonctionnement et en restructurant. Et aujourd'hui, moi, je suis désolé, je m'inscris info sur la démarche parce que Auchan ne peut pas choisir la place du client. Sur quelle étude il se base pour dire que c'est le client qui réclame ça? Alors oui, il y a Internet, je ne le cache pas. Bien évidemment qu'il y a des modes de consommation qui ont changé, mais ça n'est pas une généralité. Et c'est eux qui mettent en place des modes de fonctionnement dégradés qui ne servent pas le service client qui doit être rendu. Voilà, n'oublions pas que nous sommes dans une enseigne avec une notion de service. Les services, le tertiaire, c'est ça, c'est apporter du service, apporter du conseil et apporter un sourire à notre clientèle. C'est ça que recherche le client aujourd'hui. Il a besoin d'être assuré sur la traçabilité de ce qu'il mange et il a besoin d'être assuré dans ses actes d'achat. Et donc le fait d'enlever le SAV, c'est la mort annoncée de la vente d'équipement. En tant que client, moi demain, si je dois acheter une télé ou un ordinateur et qu'on n'est pas capable de me montrer comment il fonctionne, comment il sera garanti, comment il sera réparé, échangé ou remboursé, et bien alors je perds pas mon temps à venir à Auchan alors.
Ah, vous nous dites ça parce que c'est le SAV qui va surtout être touché là dans la restructuration?
Alors il y a le SAV qui va être touché, mais sans faire d'annonce angoissante, il y aura aussi la population caisse parce que par la force des choses on ne pourra pas mettre...
Ils disent que non là.
Mais ils peuvent pas mettre... Alors, mais c'est mécanique, on ne pourra pas mettre une hôtesse de caisse derrière chaque pôle d'encaissement. Ça veut dire qu'ils sont en train d'investir pour mettre des machines automatiques partout, c'est pas pour y mettre de l'humain. L'objectif encore une fois c'est de rationaliser les structures. Donc je ne vois pas pourquoi ils investiraient de façon colossale dans des modes d'encaissement automatique pour après y mettre un point physique, une hôtesse de caisse. C'est mécaniquement, c'est impossible.
L'objectif, c'est de changer jusqu'à moins 70% des caisses classiques pour mettre de l'automatique.
D'où vous sortez ce chiffre, 70%?
C'est une estimation. Ça dépend des concepts, ça dépend des magasins, de la taille des hyper.
Ça va à partir de vos observations, quoi. Hein,
voilà, tout à fait. Quand on voit les schémas que la direction nous donne, ça peut aller jusqu'à moins 70%. Donc quand vous retirez 7 caisses sur 10, vous ne pouvez pas mettre une hôtesse par pôle de numérique, c'est pas possible. Donc il y aura forcément des licenciements. Déjà qu'on est en restructuration permanente dans les magasins, on peut pas reclasser les personnes dans les magasins. Alors ce que nous, on demande à la CGT, c'est d'ouvrir des parcelles sur les enseignes cousines, comme tout ce qui est Decathlon, Noroto, etc., pour pouvoir reclasser les personnes qui ont permis justement de créer ces entreprises.
Ah oui, mais vous savez d'avance ce que va vous répondre Mullier, il va dire « Ah bah non, c'est pas le même groupe ».
Oui, mais ça dépend quel Mullier, parce que si vous écoutez la presse, Alexis Mullier a pris la parole cette semaine pour dire que les salariés d'Alinéa, on pouvait les classer chez Auchan. Alors qu'Auchan est en restructuration, je comprends pas. Alors, quelquefois on a le droit, quelquefois on n'a pas le droit. Alors on a posé la question hier, pour être tout à fait franc, on nous a répondu que c'était le même actionnaire. Et qu'ils avaient le droit. À ce moment-là, les actionnaires sont les mêmes. Ce sont les actionnaires de la famille Mullier. Alors pourquoi est-ce que d'Alinéa à Auchan on pourrait, et pas d'Auchan à Decathlon par exemple?
Et là, on aurait une vraie réponse à tout ce qui est emploi sensible. Ça veut dire que ces passerelles professionnelles qui permettraient au public sensible de ne pas perdre leur emploi mais de migrer vers une enseigne de la FM Mullier serait une vraie solution pour l'ensemble des métiers qui seraient impactés. Mais Auchan préfère licencier. Et de dire que voilà, c'est imposé par le client dans ses modes de consommation nouveaux. Et là aussi, c'est une vraie fumisterie d'avoir ce discours-là. Parce que c'est un manque de reconnaissance par rapport à l'ensemble des salariés qui n'ont jamais démérité.
D'autant plus que cette valse de poste, on l'a pour l'encadrement. Monsieur Hubner a retrouvé un poste à Camailleux. Une ancienne RH de Auchan arrive chez le roi Merlin. Donc il y a deux poids, deux mesures. Et il y a toujours eu chez Auchan.
Et oui, on sait bien qu'en effet, les cadres de chez Mullier, voilà, eux, peuvent bénéficier, voilà, de ce reclassement, ce qui n'est pas le cas des salariés. En effet. Peut-être un dernier mot à propos du gouvernement. Là, on entend dès ce matin sur France Info que les ministres et que le gouvernement se mobilisent pour Bridgestone à Béthune. C'est pas loin, là. Mais, et pour vous, est-ce qu'il y a un soutien de la part du gouvernement?
Alors je vais le dire de façon ironique, je serais très surpris d'avoir un soutien du gouvernement. Vous savez qu'on a aussi un DRH qui siège, qui est monsieur retraite et qui s'occupe du volet retraite. Donc ça m'étonnerait quand même fortement qu'il y ait un écho jusqu'aux hautes sphères de l'État. Alors après, j'aimerais, hein, si on pouvait rencontrer demain un interlocuteur du gouvernement pour expliquer la situation de l'entreprise Auchan. Nous, on a déjà fait une démarche au niveau du ministère de l'économie où on avait demandé des comptes sur le CICE et la méthode dont il avait été ventilé. Alors, on nous a entendu, mais on a eu une fin de non-recevoir, en tout cas, dans les façons dont ils ont pu apostropher les dirigeants d'Auchan. Donc, ça peut être un exercice qu'on pourra reconduire demain avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que le CICE, il génère de la casse, et en même temps, il nourrit pas les emplois. Donc, il y a un contresens dans les aides publiques qui sont attribuées.
Donc, moi, c'est Eladji, je suis référent du commerce dans le département du Nord. Voilà, donc aujourd'hui, les salariés se sont mobilisés, comme vous le savez, suite à l'annonce de la suppression de 1475 postes. Donc une suppression qui touche l'ensemble des salariés. Hein. Il y en a certains qui pensent qu'ils ne sont pas touchés, mais l'ensemble est touché parce qu'ils le font par poste. Donc il faut savoir que groupe, Auchan fait partie du groupe Muliez qui a touché un demi-milliard de CICE. Et aujourd'hui qui se permet de fermer certains postes, de supprimer des caissiers, de supprimer le SAV, le service après-vente. Et puis on sait très bien qu'il y a un an, il y avait déjà un plan de départ volontaire. Donc, il disait que tout le monde n'allait pas toucher. Aujourd'hui,
ça concernait combien de personnes là alors
ça concernait à peu près 1700 personnes aussi. Donc, ça va toujours en crescendo. Donc, il faut savoir que c'est que le début. Nous, on pense très bien qu'ils vont après aller pour supprimer certains magasins qu'ils pensent qu'ils ne sont pas rentables. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas, aujourd'hui, donner de l'argent à des entreprises qui ferment. Ils ont touché de l'argent, ils doivent rendre des comptes. Voilà.
Du côté de chez Auchan, on parle de restructuration nécessaire pour s'adapter à un marché qui évolue au niveau de la grande distribution. Vous en pensez quoi ?
Eh ben c'est du blabla. Qu'est-ce qu'ils vont restructurer ? Ça veut dire qu'ils vont fermer des caisses. Ce sont les clients qui vont faire maintenant les courses, qu'ils vont faire le travail à la place des personnes qui travaillent au niveau des caisses. C'est inadmissible. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent installer, c'est des caisses automatiques. Et on sait très bien que les caisses automatiques, c'est les suppressions de postes. Donc le client aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir, il fait les courses lui-même. Il passe en caisse lui-même, il encaisse, il prend ses produits et il se barre. Donc, il est où l'accompagnement des salariés ? Donc, c'est du blabla.
Alors, peut-être qu'en même temps, ils ont des difficultés financières du côté de la famille Mullier. Ils sont peut-être dans le besoin, ces gens-là, non ?
Bah, moi, je pense pas, parce qu'à partir du moment où on touche un demi-milliard, tous les licenciements, les structures sont fait, il n'y a aucun centime qui sort de leur poche. C'est l'argent de l'État, et l'argent de l'État, c'est l'argent des contribuables. Donc, c'est inadmissible. On connaît bien les montages financiers, hein. Et en plus, Auchan n'est pas un cas isolé. Il y a Alinea, qui fait partie de ce groupe, qui ferme aussi. Il y a Auchan, il y a aussi Flunch, qui fait partie de ce groupe. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'ils sont en train de faire des montages pour toujours beaucoup d'argent, le rendement, et les salariés, bah, ils n'ont rien.
Alors après l'annonce de cette suppression de près de 1500 emplois, est-ce que du côté du gouvernement, il y a des réactions de soutien comme on peut les voir aujourd'hui pour Bridgestone par exemple ?
Moi, à mon avis et mon analyse, le gouvernement, il est complice. Il est complice pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, tous les grands groupes, ils ont touché énormément d'argent. Et il n'y a pas de contrepartie. Le CICE, c'est du cadeau, c'est des cadeaux faits au niveau des grands groupes. Aujourd'hui, le gouvernement, on ne l'entend pas. Il n'y a aucune contrepartie. Il ne les exige en rien de garder l'emploi. Et il y a le silence total. Donc, c'est inadmissible. Donc, le gouvernement et le patronat, on sait très bien que le gouvernement, il est là à la botte des patrons. Hein. Ça, on le sait. Il y a des licenciements, on n'en parle pas. Il y a des fermetures, on n'en parle pas. Même il y a la répression syndicale dans les entreprises, on n'en parle pas. Donc, c'est une complexité.
Alors c'est un peu particulier parce que ça touche un secteur qui a été mis en avant de façon très forte pendant la pandémie qui n'est pas terminée. Mais quand on n'avait plus le droit de circuler, on pouvait quand même aller faire ses courses. Et les gens qui travaillaient dans les supermarchés, eux, étaient bien là. Hein.
Là aussi, pareil. Donc quand le gouvernement dit il faut donner la prime Covid, non seulement une prime ne peut pas remplacer une vie, une prime ne peut pas remplacer
une
personne
qui est
touchée.
Il y a eu une prime Covid chez Auchan.
Voilà, oui, mais là aussi, pareil. Donc, je ne veux pas vous dire que la plupart des salariés chez Auchan, c'est des temps partiels, et que l'argent qui est donné, les 1 000 euros, il n'y a personne qui a touché 1 000 euros. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu un salarié de Auchan qui a touché 1 000 euros. Premièrement, ils l'ont conditionné avec une présence inouïe. Ils ont mis des freins, ils ont mis des conditions qui ne sont pas atteignables. Donc là aussi, pareil, Auchan n'a pas joué le jeu. Voilà. Et il faut savoir aussi, il y a des personnes qui sont décédées. Et quand un salarié décède, il laisse quand même sa famille. Et là aussi, il faut se batailler pour la reconnaissance comme maladie professionnelle. Et qui n'est pas, il faut se batailler encore, et je trouve que ce n'est pas normal.
Vous savez combien de personnes chez Auchan sont décédées du Covid? On a une idée?
Ce qui est connu, entre guillemets, dans notre, nous, dans la branche, on a dénombré à peu près une trentaine. Donc tout confondu, de la commerce et de service. Et déjà, on pense que c'est très énorme. Ne serait-ce qu'une seule personne, c'est trop. On ne peut pas aller travailler en risquant sa vie.
Quand je lis votre tract là, que vous distribuez aux clients, que vous remerciez les clients hein, fortement de leur fidélité, mais... je n'y lis pas de revendications. Quelles sont vos revendications aujourd'hui?
Les revendications de la CGT, c'est global. Et en plus, pour tout sur ce secteur très précaire, c'est la réduction du temps de travail 32 heures. C'est le SMIC à 1800 euros. Pourquoi 1800 euros? En dessous de 1800 euros, on ne peut pas vivre dignement. En dessous de 1800 euros, on est encore précaire. En dessous de 1800 euros, on est encore frappé par des charges qui sont vraiment énormes. On ne peut pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, il est temps que le SMIC soit au minimum 1800 euros.
Et il y a beaucoup de salariés au SMIC chez Auchan, c'est ça que vous nous dites?
Énormément, énormément. À part les cadres et les fonctionnels, tous les autres salariés touchent le SMIC. Quand tu prends les caissières, c'est le SMIC. Quand tu prends les personnes qui sont dans les rayons, c'est le SMIC. La boulangerie, pareil. Donc aujourd'hui, c'est voulu. Hein. Les personnes qui font fonctionner les grandes distributions, les petits bras qu'on parle, c'est eux, c'est les SMICards. Et c'est voulu pour les maintenir. Ils ne peuvent pas partir en grève, parce que quand tu pars en grève, tu perds de l'argent. Donc il y a la répression, il y a tout ça. Donc c'est inadmissible. Donc il faut savoir que le fonctionnel, c'est quoi? C'est uniquement faire les planifications, faire le budget, et ainsi de suite. Mais ce qui fait fonctionner la grande distribution, c'est les personnes qui mettent en rayon les caissiers, les caissières, et ainsi de suite.
Une dernière question peut-être concernant Mullier, parce que Mullier a parfois une image en France hein, et dans le Nord d'un patron un peu social, un peu soucieux de ses salariés. Là, ça correspond à la réalité selon vous?
La preuve est là. Si tu vois l'ensemble des salariés qui sont là, évidemment non. Quand on est soucié de ses salariés, on ne fait pas des plans de restructuration, on ne fait pas des plans de licenciement. Départ volontaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se sépare des salariés. Et pourtant, ce sont ces salariés qui ont fait sa fortune. Sans ces salariés-là, peut-être Mullier ne serait pas là où il est aujourd'hui. Et donc, il n'y a aucune reconnaissance. Là aussi, pareil, c'est de la poudre aux yeux. Et il faut pas, les salariés ne sont pas dupes. Et nous aussi, nous ne sommes pas dupes.
Mieux qu'à la foire, mieux qu'au cirque, mieux qu'à la télé, au supermarché. Tous les vendredis avec Mémé, on fait les courses au supermarché. Des mois de temps jusqu'au surgelé, assis dans le caddie, je me laisse pousser. On monte au premier étage, la lessive avec Adou, 600. Tous les produits de ménage, ensuite on arrive au bain moussant. Tous les vendredis avec Mémé, on fait les courses au supermarché. Des mois de temps jusqu'au surgelé, assis dans le caddie, je me laisse pousser. Allez, pousse plus vite Mémé, qu'on arrive au rayon des bonbons. Il faut des lames de rasoir, que mon papa soit le plus beau du bureau.
Cette semaine en promo, les petits gâteaux sont au prix du gigot. On vous en fait 12 kilos pour 54 euros et en plus, une éponge en cadeau.
Vendredi avec Mémé, on fait les courses au supermarché. Des mois de temps jusqu'au surgelé, assis dans le caddie, je me laisse pousser. Dans le rayon des fromages, à côté de celui des poissons. Ça chlingue dans le voisinage, ça pue encore plus que chez Tonton. Tous les vendredis avec Mémé, on fait les courses au supermarché. Des mois de temps jusqu'au surgelé, assis dans le caddie, je me laisse pousser. Faut pas oublier en plus ce qu'on voit tous les soirs à la télé. Les produits publicitaires,
t'as plus de sous, allez pleure pas Mémé.
Tous les vendredis avec Mémé, on fait les courses au supermarché. Avec Mémé, on fait les courses au supermarché. Des mois de temps jusqu'au surgelé, assis dans le caddie, je me laisse pousser.
Oh, y'a la queue à la caisse, je tire les cheveux à la fille de devant. Son père me botte les fesses, Mémé l'attrape, elle lui pète dedans.
On n'ira plus au supermarché, parce que Mémé, elle s'est fâchée. Les prix avaient tellement augmenté, qu'elle a fini par tout casser. Qu'elle a fini par tout casser. Qu'elle a fini par tout casser.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Bonjour à Stéphane Siro et merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder un entretien dans le cadre des vidéos que nous réalisons pour le centenaire du Congrès de Tours, un entretien réalisé avec l'initiative communiste. Stéphane Sirot est historien et spécialiste du mouvement ouvrier et du syndicalisme, hein, à propos duquel il a écrit de nombreux articles, ouvrages. Et en ce mois de décembre 2020, pour le centenaire du congrès de Tours, il est difficile de passer sous silence les liens qui peuvent exister justement entre, d'une part, le Parti communiste, en du moins lors de sa formation, la SFIC, et puis d'autre part, justement, des syndicalistes qui étaient présents. Et pour la fondation de ce parti, et bien justement, la toute première question, Stéphane, d'un point de vue historique, quel a été le poids de ces syndicalistes dans la fondation donc de la SFIC à Tours?
Je vais commencer par ce qui peut apparaître comme une anecdote, mais qui, à mon sens, n'en est pas une, mais qu'on a un peu oublié, même beaucoup oublié, avant la naissance du Parti communiste, tel qu'on le connaît depuis le congrès de Tours de 1920. Il y a eu l'année précédente, dès le début de l'année 1919, donc la première guerre à peine terminée, la fondation d'un premier parti communiste. Ce premier parti communiste, hein, qui apparaît donc au début de l'année 1919, il est fondé par un syndicaliste à l'époque très célèbre, même si aujourd'hui son nom a été très largement oublié, qui s'appelait Raymond Péricat, qui était jusqu'à la Première Guerre mondiale le leader du syndicalisme du bâtiment, qui à l'époque était le fer de lance du syndicalisme français dans sa version révolutionnaire, qui lui-même a été mobilisé au début de la guerre, et qui, très vite à son retour, a milité contre cette guerre capitaliste et s'est très tôt engagé, comme d'autres syndicalistes, au départ minoritaires, dans cette lutte contre la guerre. Et une fois cette guerre terminée, il fonde ce premier parti communiste qui va rassembler, je dirais, au maximum un petit millier de militants, et puis qui finalement va disparaître à la fin de l'année 1919. Mais tout ça pour dire que la naissance du Parti communiste, elle émane largement de l'opposition à la guerre, alors qui s'est matérialisée au sein de la SFIO, du Parti socialiste de l'époque, et qui s'est matérialisée aussi, et de manière souvent beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus efficace et beaucoup plus forte, du côté du champ syndical, de ceux qui n'ont pas accepté cette union sacrée qui s'est matérialisée autour du cercueil de Jaurès et qui a fait sombrer une large part de ce mouvement ouvrier dans une forme de collaboration avec l'appareil d'État pour lutter contre l'Allemagne. Donc voilà, on a cet arrière-plan syndical très fort, même si au moment de la naissance, donc en 1920, au congrès de Tours du Parti communiste, c'est pas forcément les syndicalistes qui vont jouer le rôle le plus essentiel. Hein. Je dirais que les débats autour du congrès de Tours sont plutôt menés par les ex-opposants au sein de la SFIO. Et quand on regarde un petit peu la constitution des premiers organes dirigeants du Parti communiste naissant, on retrouve très très peu de syndicalistes, de haut niveau de responsabilité. Les dirigeants de la CGTU, qui va naître de la scission de la CGT, qui est un peu d'une certaine manière le prolongement de la naissance du Parti communiste, ces dirigeants de la CGTU sont souvent, voire presque toujours, des adhérents du Parti communiste, sans en être encore des dirigeants. C'est surtout à partir de 1923-1924, qu'au moment de la bolchevisation du Parti communiste, le lien avec le syndicalisme va se renforcer, le lien entre la CGTU et le Parti communiste va se renforcer, et à partir de ce moment-là, on trouve, notamment au sein de la direction du Parti communiste, des responsables syndicaux de très haut niveau. En quelque sorte, au moment où le Parti communiste décide davantage qu'auparavant de s'implanter sur la base des entreprises, des usines. Et là, évidemment, commence à se mettre en place ce que certains historiens ont pu appeler, visant surtout ce qui se passe après la Seconde Guerre, c'est en partie juste aussi pour toute une partie de l'entre-deux-guerres, se met en place ce qu'on appelle l'écosystème entre la CGT, la CGTU d'abord, puis la CGT ensuite, et le Parti communiste, un écosystème efficace qui n'est pas, il faut quand même le rappeler, la courroie de transmission, pour reprendre une expression qui a souvent été employée, qu'on a pu pointer du doigt. Il y a une interaction très forte entre les dirigeants syndicaux et les dirigeants du Parti communiste, les militants syndicalistes et les militants communistes, ne serait-ce que pour la raison très simple que le Parti communiste s'organise sur la base des entreprises. Et en s'organisant sur la base des entreprises, le rôle des syndicalistes devient tout à fait éminent.
Eh bien, merci beaucoup pour cette première réponse, Stéphane, qui est très éclairante, notamment parce qu'elle soulève un point important, je crois que tu viens de dire, c'est la question du lien entre le syndicalisme et le parti, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que nous entendons souvent, très souvent, y compris de la part de responsables de la Confédération de la CGT, de la Confédération nationale, qui brandissent la charte d'Amiens 1906 pour dire surtout indépendance des syndicats. Et curieusement, ils le disent très souvent, notamment par rapport à des partis de gauche. D'où cette question, est-ce que finalement ce n'est pas à travers des liens quand même historiquement entre le Parti communiste et la CGT que les plus grandes conquêtes sociales et démocratiques ont pu être arrachées?
Alors je pense qu'il faut d'abord revenir sur cette notion d'indépendance. L'indépendance du syndicalisme vis-à-vis des partis politiques, d'une part, elle n'a jamais été ni absolue, ni véritablement mise en pratique. Quand on regarde, y compris à l'époque du syndicalisme révolutionnaire, celui qui est l'auteur principal de cette charte d'Amiens, il noue des liens fréquemment, y compris parfois avec des parlementaires, souvent avec les organisations socialistes ou même la SFIO, dès lors qu'il considère que cela peut permettre de faire avancer leur cause. Moi qui, par exemple, ai travaillé beaucoup sur les ouvriers du bâtiment, qui étaient considérés comme la quintessence du syndicalisme révolutionnaire avant la Première Guerre, lorsqu'ils demandaient l'interdiction de la céruse dans la peinture, l'interdiction du plomb dans la peinture, que faisaient-ils? Alors, bien sûr, ils mettaient en œuvre des revendications, des grèves, mais ils allaient aussi agir sous une forme de lobbying presque, auprès des parlementaires pour qu'ils fassent voter dans la loi l'interdiction de l'utilisation du plomb dans la peinture. Enfin bref, il n'y a jamais eu de barrière étanche entre le champ politique et le champ syndical. Aujourd'hui, enfin, en tout cas depuis au moins 25-30 ans, une partie des dirigeants syndicaux, y compris souvent à la CGT, se sont servis de cette idée pour, au fond, disjoindre le syndicalisme de la question politique, comme si d'ailleurs c'était quelque chose de possible. On sait bien qu'il est évident que les revendications que porte le champ syndical, elles sont parfaitement dépendantes du système dans lequel on se trouve. Enfin, disjoindre les revendications des travailleurs du capitalisme et de la lutte contre le capitalisme, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait illusoire. Et quand on regarde dans l'histoire et quand on regarde les grands épisodes de notre histoire sociale, en particulier ceux du XXe siècle, quand les plus grandes conquêtes sociales ont-elles été obtenues par les travailleurs en France? Je vais prendre deux exemples, le Front populaire et les années 68. 36, quelle est la conjoncture? La vague de grève de 36, la plus spectaculaire de notre histoire jusqu'à celle de 68, elle se déroule dans l'entre-deux-tours des élections législatives qui, de toute évidence, vont donner la victoire à cette alliance de Front populaire, au sein de laquelle, en l'occurrence, le parti politique qui progresse le plus et qui, au fond, apparaît comme le plus menaçant pour l'ordre dominant, c'est le Parti communiste. Donc c'est dans un contexte de poussée électorale de la gauche en général, du Parti communiste en particulier, sur fond de vagues de grève massives, que sont conquis les congés payés, les 40 heures, sans compter par ailleurs les augmentations de salaire, la loi sur les conventions collectives qui va mettre en place ce qu'on a appelé plus tard la hiérarchie des normes, enfin bref, toute une série de conquêtes qui ont réalité jusque... quasiment, je dirais, jusqu'à la loi El Khomri pour ce qui est du principe de faveur, en tout cas de la hiérarchie des normes, ont dominé notre système de relations sociales. Autre exemple, 68. Bon, 68, quel est le contexte? Pareil, et même encore davantage qu'en 36, cette vague de grève avec occupation, ces luttes transgressives d'une part, et puis d'autre part, un parti communiste qui est à ce moment-là encore à environ 20% des voix. Bon, donc on a de nouveau une configuration dans laquelle un mouvement social puissant est accompagné par un parti communiste puissant. Et quand on regarde l'évolution des choses pendant 15 ans suite à cette grande peur, hein, cette grande frayeur que va susciter pour l'ordre dominant cet épisode de 68. Entre 68 et 83, c'est-à-dire le fameux tournant de la rigueur que prend le gouvernement de François, enfin, à l'époque de François Mitterrand, pendant 15 ans, il y a une longue phase de rattrapage des salaires sur le capital. C'est-à-dire le partage des richesses se fait pendant 15 ans davantage au profit des salaires et un peu moins au profit du capital. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'effectivement, il y a eu cet épisode de 68, il y a eu cet épisode de mobilisation de masse et accompagné par ce Parti communiste qui est encore à ce moment-là un parti de masse. Donc on voit bien que les configurations dans notre pays au cours desquelles le monde du travail a pu conquérir les plus grandes avancées, ce sont systématiquement des situations dans lesquelles une articulation efficace entre le champ social et le champ politique s'est réalisée. Et évidemment, dans quelle configuration à chaque fois ? Dans celle d'une CGT de masse, de classe, de lutte qui est puissante, et de l'autre, un parti communiste qui lui-même est un parti porteur de la critique sociale dans le champ institutionnel et qui accompagne ces luttes de masse. Voilà la configuration classique. Et on peut regarder tous les exemples que l'on voudra. On ne trouvera pas d'exemple inverse où, par exemple, pour prendre un terme à la mode, où le dialogue social sans rapport de force aurait pu obtenir de quelconques avancées.
Tu as cité 1983, souvent présenté d'ailleurs comme un tournant de la rigueur. Quand on regarde bien, en réalité, ça fait déjà des années que le Parti socialiste, notamment, lui, est déjà prêt à capituler en race campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis le milieu des années 70, disons-le clairement, et puis encore plus depuis effectivement le début des années 80, on constate un net déclin, pour ne pas dire un effondrement, des effectifs du Parti communiste d'une part, puis même de la CGT qui a de plus en plus de mal, de difficultés à mobiliser, et elle encore plus depuis qu'elle a intégré la Confédération européenne des syndicats. Alors, justement, d'où la question qui peut se poser dans une période de centenaire, est-ce que finalement la renaissance d'un grand parti communiste, véritablement de classe de masse lui aussi, est-ce que ça ne doit pas passer, d'une part, par la réaffirmation d'une ligne qui soit en totale rupture avec l'Union européenne, l'euro, avec l'euro-mutation, hein, en quelque sorte, avec cet euro-communisme, et puis d'autre part, avec la réaffirmation de liens solides avec une CGT au sein de laquelle, d'ailleurs, on voit de plus en plus de divisions entre une confédération qui s'aligne progressivement sur la CFDT et des bases des fédérations de plus en plus critiques et qui souhaitent une rupture, véritablement.
Alors, d'abord, pour ce qui concerne la fin de ta question, à savoir celle des liens qui doivent être noués entre le syndical et le politique, entre le mouvement social et le politique plus largement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus impératif que pour moi, nous nous trouvons dans une phase historique parce que, et j'ai pas peur d'employer ce terme qui est souvent galvaudé, mais parce qu'on ne trouve guère d'équivalent dans notre histoire d'une phase aussi longue au cours de laquelle s'est amorcée et amplifiée une critique sociale, une critique du système dans lequel nous nous trouvons, une critique du libéralisme et plus largement du capitalisme, d'une telle durée, d'une telle ampleur. Pour moi, à part depuis 2016, avec comme point de départ la mobilisation contre la loi El Khomri, cette fameuse première loi travail, accompagnée à l'époque des Nuits debout, qui avait fait beaucoup parler aussi à ce moment-là. Depuis cette mobilisation, on se trouve, depuis donc 5 ans, ou presque, dans une longue phase de contestation quasi ininterrompue. On peut en faire très facilement et très rapidement la généalogie. Donc, il y a eu tout au long du printemps 2016, cette contestation contre la loi El Khomri et ses Nuits debout, passé la défaite de François Hollande, qui n'a pas pu se représenter. On peut d'ailleurs penser que son incapacité à se représenter, c'est le coup de boutoir a été précisément mis par ce mouvement social. Il y a eu l'élection de Macron, qui très vite a été suivie par une tentative de remobilisation autour des ordonnances travail, cette espèce de seconde loi travail qui de nouveau a continué à détricoter le droit centenaire, le code centenaire du travail. Bon, cette mobilisation a été très circonscrite, en tout cas beaucoup plus que ne l'auraient souhaité certains, mais il n'empêche que très vite après, à partir de la fin de l'année 2017 et jusque quasiment l'été 2018, il y a eu une succession de mouvements sociaux ininterrompus, ce que j'ai appelé un printemps social, dont le point d'orgue avait été la mobilisation contre la privatisation de la SNCF et la casse du statut des cheminots. Et puis, passé l'été, à partir du mois de novembre 2017, c'est le mouvement des Gilets jaunes, qui va durer lui-même, ou qui va essayer de durer lui-même, quasiment jusqu'à l'été 2019. Et puis l'été passe, et au mois de septembre 2019, grande grève à la RATP qui annonce le démarrage le 5 décembre de ce fameux mouvement social contre la réforme Macron de la retraite à points. Et tout ça étant interrompu, mis entre parenthèses, à mon avis, de manière très très éphémère, dans l'attente que la situation sanitaire s'améliore, mais en tous les cas, ça a duré jusqu'au confinement. Jusqu'au confinement, en réalité, le mouvement contre la réforme des retraites a été vivant, hein, et on voyait bien qu'il y avait encore des actions qui étaient menées, et on ne voyait pas vraiment quand est-ce que tout ça allait s'arrêter. Et donc on était encore, à mon sens, dans un moment où allait perdurer cette contestation sociale, et où, donc, je le disais, elle va sans doute redémarrer une fois que cette question de coronavirus sera réglée. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et si on regarde bien, pendant cette phase, donc désormais de 5 ans quasiment, à chaque fois, ces mouvements sociaux d'ampleur se sont heurtés notamment sur un écueil, un puissant écueil, qui était celui de l'absence de relais politiques, d'articulation politique efficace. Bon. Et à chaque fois, cette forte critique sociale qui était portée par ces mouvements n'est pas parvenue à trouver cette traduction politique qui aurait pu en faire, y compris dans le temps présent, sans forcément, sur le coup, changer radicalement de modèle, mais qui aurait pu en faire dans le temps présent, comme en 36 ou comme en 68, un moment de victoire et de conquête sociale. Or, si cela ne s'est pas matérialisé, pour moi, c'est précisément parce qu'il y a aujourd'hui un déficit assez tragique, de mon point de vue, entre la capacité de mobilisation sociale, dont on voit qu'elle est puissante d'un côté, et la capacité de faire en sorte que cette mobilisation sociale soit accompagnée, amplifiée, articulée avec une organisation, ou peut-être certains diraient des organisations politiques, suffisamment elles-mêmes puissantes et menaçantes pour être en capacité de recréer cette formule que j'évoquais à propos de 36 et de 68, c'est-à-dire d'un côté un mouvement social qui fait peur, et de l'autre une organisation politique transgressive qui elle-même fait peur aux institutions et au système capitaliste. Alors il est bien évident qu'ensuite, si on veut justement parvenir à refonder cette articulation, il est évident que ce soit d'ailleurs dans le champ syndical ou dans le champ politique, que la question européenne est tout à fait cruciale. Cette question européenne, à un moment donné, me semble-t-il, pour parvenir à recréer cette dynamique, il faudra qu'elle soit tranchée. On vit très largement dans le champ syndical et dans le champ politique à gauche, sur toute une série d'ambiguïtés autour de cette question européenne, des ambiguïtés dont on voit bien que les uns et les autres ne veulent pas vraiment les trancher, parce qu'on sent bien que c'est une question qui fâche, c'est une question sur laquelle la gauche n'est pas au clair du tout. Et au sein du mouvement syndical, la Confédération européenne des syndicats, qui se vit elle-même comme une organisation d'accompagnement du système capitaliste. Et là, en l'occurrence, ça n'est pas un jugement de valeur, c'est la Confédération européenne des syndicats qui le dit elle-même, qui le revendique dans toute une série de textes. C'est tout à fait frappant, parce que dans le débat franco-français, quand on se positionne sur la CES en disant qu'il s'agit d'une organisation pro-européenne qui défend le libéralisme et le capitalisme, ce qui est vrai, c'est que ça n'est pas un jugement de valeur. C'est une réalité proclamée par cette organisation elle-même. Donc il est bien évident que des organisations qui se voudraient en rupture avec le monde d'hier pour reconstruire celui de demain dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, ce fameux monde d'après, il est bien évident que ça ne peut pas se faire à l'intérieur d'organisations qui ont mis en place, hein, une espèce de carcan qui aligne au fond les organisations qui étaient auparavant, pour un certain nombre d'entre elles, des organisations de lutte, sur un modèle qu'on pourrait qualifier, pour faire vite, de modèle social-démocrate, de modèle social-démocrate dont le rôle essentiel, on le voit bien, est un rôle d'accompagnement, si ce n'est de sauvetage d'un système capitaliste qui manifestement est aujourd'hui en grande difficulté.
C'est malheureux qu'en République, il n'y a plus moyen de travailler. Les employeurs sont des bourriques qui ne considèrent plus l'ouvrier. Ainsi je grattais à la villette quand on va me dire l'autre matin, il va y avoir 3 jours de fête, vous ferez le pont, ça vous ira bien. Oh, oh, oh. J'ai commencé par engueuler le patron en y disant, vous êtes qu'un sale cochon, les travailleurs, il faut les respecter. Je m'ai mis en grève et j'ai tout plaqué. En faisant mon apprentissage dans une charcuterie rue Têtebout, j'ai essayé de faire l'étalage et c'était pas commode du tout. La patronne s'écrie qu'il est bête, posez donc votre langue sur vos pieds, vos rognons sur la petite tablette et votre andouille dans le saladier. Oh, 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 j'ai commencé par engueuler le patron en lui disant, vous êtes qu'un sale cochon, les travailleurs, il faut les respecter. Je l'ai mis en grève et j'ai tout plaqué. Pour un peintre en lettres et virgules, travailler chez un marchand de vin, fallait mettre en lettres majuscules au coq d'or sur son magasin. Faut se dépêcher, il faut en mettre. Il contre-maître, montez là-dessus. Pendant que je vais faire les autres lettres, prenez pinceau et faites le cul. Oh, 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 j'ai commencé par engueuler le patron en lui disant, vous êtes un sale cochon, les travailleurs, il faut les respecter. Je m'ai mis en grève et j'ai tout plaqué.
Il y a quelque chose de très important que tu viens de dire, là encore, à travers le vocabulaire que tu as utilisé, tu parlais de puissant, de subversif même, pratiquement, quelque chose comme ça, en tout cas de vraiment de logique d'affrontement, de lutte des classes. Et c'est vrai que ce centenaire du Congrès de Tours, au-delà des commémorations diverses et variées, la question qu'appelle cette commémoration, c'est comment refonder finalement un puissant parti communiste et naturellement de pair derrière, puisque c'est en 2022, si je ne me trompe pas, qu'aura lieu le 53e congrès de la CGT. Bon, c'est aussi cette question-là de refonder une CGT de classe et de masse. Mais si on en revient à ce centenaire, tu viens d'évoquer l'une des questions majeures qui va ressurgir probablement dans 16 mois à l'élection présidentielle, c'est celle effectivement de la question européenne. Et in fine, dans la continuité, celle de la souveraineté nationale, populaire, etc., qui permet à un grand mouvement puissant de pouvoir s'incarner. Le PRCF, le pôle de résistance communiste en France, depuis toujours, explique qu'il faut en finir avec cette Union européenne, avec l'euro, avec son bras armé, l'OTAN, parce que c'est le seul moyen d'affronter le capitalisme, en fait. En finir avec le capitalisme, c'est en finir avec ce... Est-ce que tu penses que cette ligne du Frexit progressiste, finalement, est à même de pouvoir arriver à créer ce lien, tu disais, qui est distendu, qui n'existe plus entre, d'une part, des mouvements sociaux de plus en plus radicalisés, effectivement, on le sent, radicalisés dans le bon sens du terme, dans le sens de la justice sociale, etc. D'autre part, effectivement, des formations, comme tu le dis, qui, bon, bah, quand elles sont nourries à base de partis de la gauche européenne ou de CES, peuvent difficilement être subversives.
Bah, moi, il me semble que la rupture avec l'Union européenne, hein, c'est une thématique qui résonne, notamment au sein des mouvements sociaux que j'évoquais il y a quelques instants. Hein, de fait, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, au sein des pays de l'Union européenne, la France est certainement l'un de ceux d'ailleurs où la critique de la politique menée au sein de l'Europe est la plus forte. Quand on regarde, souvenons-nous, le référendum sur le traité de Maastricht, il a été validé à très peu de choses près, alors qu'il y a eu quand même, il faut le dire, une propagande de l'ordre dominant qui, à l'époque, a été extraordinaire. Donc, y compris avec cette propagande et ces armes de propagande spectaculaires, le traité de Maastricht a failli être rejeté. Le traité constitutionnel européen de 2005, il a été rejeté. Et de ce point de vue, c'est la France qui, de fait, a ouvert la voie au premier échec de ce traité constitutionnel qu'ensuite les institutions ont réussi à faire revenir par la fenêtre, en quelque sorte. Bon, donc on voit bien que la France a un effet, et le peuple français a un effet d'entraînement quand même, hein, vis-à-vis de cette critique et de cette démarche de déconstruction de cette Europe libérale qui, on le voit bien, fait de plus en plus souffrir les peuples. Bon, et on voit par ailleurs qu'au-delà de nos frontières, il y a aussi, une colère contre cette politique européenne qui tend à se diffuser. Donc il est bien évident que sans porter d'une certaine manière cette rupture avec cette Europe, rien ne sera possible. Et le mot de rupture, le mot de transgression, ce sont des mots qui, à mon sens, doivent être réévalués à tout point de vue. Ils doivent être réévalués dans notre rapport à la question européenne et réévaluer aussi dans notre rapport aux institutions en général, parce qu'il me semble que l'un des drames de notre mouvement social en général, hein, et quand je dis mouvement social, j'inclus le versant syndical et le versant politique, c'est au fond de s'être, de s'être levé, hein, dans une espèce de conformisme vers lequel a toujours d'ailleurs, hein, dans l'histoire, cherché à l'attirer l'ordre dominant. Ce conformisme, il existe à l'échelle nationale et je dirais qu'il existe d'une certaine manière encore davantage à l'échelle européenne. Et de ce point de vue, la construction européenne me semble avoir été d'ailleurs une très belle machine, hein, si je puis exprimer ce qualificatif en me plaçant du côté de ceux qui l'ont mise en place, une très belle machine de déconstruction de la lutte des classes, hein, de dilution de la lutte des classes. Et je pense que dans l'optique de cette construction, il y a cette dimension. Et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que la désindustrialisation de l'Europe s'est opérée d'abord par des secteurs industriels qui étaient précisément les moteurs du mouvement social et du mouvement ouvrier en France et en Europe. Les mineurs, les sidérurgistes, les métallos, etc. On s'est en quelque sorte débarrassé de toute une série de pans industriels qui étaient porteurs de la contestation sociale qui se retrouvait chez nous dans la CGT et qui se retrouvait massivement aussi lors des élections dans le vote autour du Parti communiste. Donc il y a eu cet aspect-là. Et puis, par ailleurs, faire sauter les frontières et essayer de créer cette espèce de fausse identité européenne, me semble-t-il, a été aussi un moyen de déconstruction de la lutte des classes et des mobilisations sociales. Parce que quand on regarde bien, là aussi, les enseignements de l'histoire, quel est le périmètre des mouvements sociaux ? C'est d'abord le périmètre national. Hein, quand on regarde comment s'organisent les mouvements sociaux, la contestation sociale, c'est d'abord, avant tout, alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'internationalisme, hein, ça c'est une autre question, mais il n'empêche que les grandes mobilisations sociales, elles ont pour cadre les États-nations, qu'on le veuille ou non. Et donc, déconstruire ces États-nations, c'est aussi, d'une certaine manière, déconstruire le périmètre qui favorisait l'émergence des grandes contestations sociales. Bon, voilà, il me semble que tous ces éléments-là militent, en effet, hein, pour qu'il y ait une mise au point très claire, hein, sur cette question européenne, sans laquelle, de toute façon, quoi qu'il arrive, et quels que soient les élus, hein, lors des élections politiques, on retrouvera systématiquement les mêmes obstacles, les mêmes murs et les mêmes problèmes.
Mais comme tu le disais, dans le fond, là encore, on en revient au problème de vocabulaire. Entre l'internationalisme et le supranationalisme, il y a une nette différence. Le supranationalisme, c'est l'Union européenne, et l'internationalisme, ce sont les mouvements sociaux.
Oui, exactement. Donc on a, mais la bataille culturelle, c'est un truisme de le dire. Hein. Gramsci avait raison. De ce point de vue-là, il est clair que la bataille sur les mots et la victoire sur les mots, c'est quelque chose de tout à fait essentiel et qui, pour moi, a été une des grandes réussites hein, de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Nous faire prendre, pour dire les choses trivialement, des vessies pour des lanternes. Nous faire prendre le supranationalisme pour l'internationalisme, nous faire prendre la réforme non pas comme quelque chose qui pourrait mener vers un progrès, mais au contraire pourrait être restrictif et imposer des souffrances, nous faire croire que la lutte des classes devait devenir le dialogue social. Enfin bref, il y a eu toute une série de batailles sémantiques hein, que le mouvement ouvrier a perdu ou qu'il n'a pas su mener et qui ont participé, à mon sens, très puissamment hein, à construire une espèce de culture, de pseudo-culture dominante hein, qui a fini par écraser dans le champ syndical et politique, qui a fini par écraser les appareils dirigeants et faire penser ces appareils dirigeants comme l'ordre dominant. Voilà, et tant que on sera dans cette situation-là, les choses vont être compliquées. Donc ça veut dire que il faut faire en sorte que sur le terrain, et je pense que c'est quelque chose justement que les mouvements sociaux construisent, que sur le terrain cette critique sociale, cette critique sémantique puisse monter en puissance hein, de manière à ce qu'irriguant le corps social, elle puisse monter jusqu'à la tête et donner l'espoir d'une alternative réelle.
En somme, une conscientisation que le PRCF aussi essaye de mener à sa petite échelle modeste, mais de plus en plus croissante. Eh bien, un grand merci Stéphane pour cet entretien que tu as accepté de nous accorder. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour signaler que récemment tu as publié un ou deux articles. Donc, si tu veux en profiter pour le signaler, les titres exacts, n'hésite pas.
Oui, j'ai sorti une série de brochures justement à destination à la fois pédagogique et militante pour revenir sur les questions essentielles qui taraudent, je dirais, depuis la Révolution française, la construction du mouvement ouvrier, c'est-à-dire son rapport aux institutions, son rapport aux politiques, bon, bref, toute une série de sujets à mon sens majeurs comme cela. Et en effet, là, je viens de sortir l'une de ces publications à propos donc, de l'analyse du récent mouvement donc, contre la réforme du système de retraite à points pour essayer un petit peu de faire réfléchir hein, sur ce que pourrait être le monde d'après de manière à ce qu'il ne ressemble pas au monde d'avant-Empire.